雪が降る、はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きしむ、因果な重さ見つめて歩く、闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ、命の道を行く女、涙は塔に捨てました。振り向いた川に旅の日が、いてた鶴は動かず、泣いた雨と風、冷えた水もにほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ、恨みの道を行く女、心は塔に捨てました。川に身を委ね、女は塔に捨てました。
C'était Meiko Kaji avec donc c'était Meiko Kaji, le morceau c'était Flower of the Flower Carnage. Meiko Kaji, grande actrice japonaise.
나 바라냐 동행하루 사시다가 나이가 사사느냐 모에루 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 엄나노 우람이 이부시 一度は血を流しゃ忘れようとて忘られようか月ぬ月ぬ月ぬ女の恨み 이불시 신데 하나미가 싹자나시 恨み 一筋生きてゆく 女 女
女命の恨み
이불시
Alors, si on doit grossièrement résumer, donc la femme scorpion, c'est une dame qui se retrouve en prison et qui est en général maltraitée par différents hommes. Et en général, soit elle s'évade de prison, soit elle est libérée. Et en gros, elle se venge de ces hommes, surtout par arme blanche. Voilà, donc c'est assez sanglant, c'est assez virulent. Donc, Meiko Kaji, la femme scorpion, elle a joué dans d'autres films. Hein. Il y a notamment, j'avais acheté... je crois que c'était sur Backfilm, voilà. Donc, il y avait eu une série de films qui s'appelle Stray Cat Rock. Donc, elle a, c'est les films de, dans lesquels elle a joué de, au milieu des années 60, fin des années 60, donc avant justement d'exploser dans La Femme Scorpion. Voilà pour Meiko Kaji. Alors, pourquoi on vous passe du Meiko Kaji? Bah, parce qu'il y a la Japan Tour Festival, qui est ce week-end, et ben, j'y ai fait un tour, et on va... Alors, j'ai discuté avec des pratiquants d'arts martiaux, je vais vous passer un extrait, non pas de la discussion, mais quelque chose qui peut être intéressant par rapport à la philosophie des arts martiaux. J'ai discuté aussi avec des gens qui pratiquent le yoga... et d'autres choses, on va dire, pour, entre guillemets, purifier l'âme. Donc pareil, on a discuté un peu. Et bah, ça m'a permis justement de parler de Kali Yuga de Cro-Mags. Et bah, on va écouter Cro-Mags. Alors Cro-Mags, ce n'est pas japonais, mais il s'inspire de la philosophie Krishna. Et c'est du bouddhisme, je crois, je ne sais plus. Et donc, bah, c'est apparu dans la conversation. Kali Yuga, c'est l'époque de la confusion, je crois. Il faudrait que j'aille chercher exactement le terme. En tout cas, écoutons le morceau Kali Yuga. Je pense que c'est extrait de l'album Near Death Experience, donc le troisième album, je crois, de Cro-Mags. Je crois que John Joseph était revenu. Puisque sur le oui, c'est bien ça. Donc John Joseph est revenu. Donc il y a toujours Harley Flanagan, bien sûr. Il y a Doug Holland au guitare, donc ex Kraut. Et il n'y a plus les autres musiciens comme Mackie Jason à la batterie, par exemple, et l'autre joue. Et Paris Mayhew au guitare. Donc Kali Yuga, troisième album, écoutons. Right. Concrete tombstone before the sky. C'était donc Cro-Mags Kali Yuga. Alors Kali Yuga, ce qui signifie l'âge de Kali, ce qui signifie aussi l'âge de fer, et ce qu'on peut aussi traduire par Age of Quarrel, donc le premier album de Cro-Mags. Il y avait même un morceau qui s'appelait comme ça, Age of Quarrel. Et c'est, alors je lis Wikipédia, hein, le quatrième âge de la cosmogonie hindoue. Les trois autres étant le Krita Yuga, le Treta Yuga et le Dvapara Yuga. Ça correspond donc ce quatrième âge à un âge sombre où les humains s'éloignent de la spiritualité et s'éloignent des dieux. Et donc, alors est-ce qu'on peut comparer ça à l'apocalypse ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est des temps sombres et comment dire ? Il faut rappeler aussi que dans Cro-Mags, on avait John Joseph et Pierre Flanagan qui étaient des adeptes de Krishna, hein, qui étaient plus ou moins pratiquants. Surtout John Joseph et John Joseph qui est toujours pratiquant lui d'ailleurs. Hein. Je vous conseille d'ailleurs de lire ses biographies Evolution of a Cro-Mag, of a Cro-Magnon, je crois. Et on va écouter un autre morceau de Cro-Mags, Sign of the Times. C'était donc Cro-Mags, Sign of the Times, et on va écouter le EP, alors je ne sais pas si on va l'écouter en entier, le EP Leave Me Alone de S.O.B. Alors pourquoi écouter l'album de S.O.B. ? Parce que j'ai récupéré une brochure qui parle d'une exposition à Osaka, du dimanche 13 avril au lundi 13 octobre, ça se passe au Yumeshima Island, donc c'est à Osaka. Écoutons un groupe de Kansai. Alors, il y a un bouquin que FOED, le label italien, avait sorti qui s'appelle Kansai Hardcore, Book of Kansai Hardcore, enfin, je vais retrouver ça tout à l'heure. En tout cas, écoutons donc S.O.B. You just say, yeah.
ce qui vous patate dans la gueule est développement personnel. Qu'est-ce qui fait de Bruce Lee un grand philosophe? Qu'est-ce que tu vas obtenir avec ta pratique assidue de ton art martial et que tous tes potes vont t'envier? Tu l'auras peut-être compris, aujourd'hui on va parler de la spiritualité dans les arts martiaux. Et pour ce faire, je suis accompagné du Sifu Johan Mo et du Sifu Benoît. Tous les deux pratiquent les arts martiaux depuis plusieurs années et se sont intéressés à cette question. Avant de commencer, si tu souhaites nous soutenir et nous encourager, je t'invite à liker et partager cette vidéo autour de toi. Et si tu veux rejoindre des centaines de pratiquants passionnés, abonne-toi à notre chaîne YouTube. On va démarrer avec une rapide présentation de toi, Benoît, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours martial, s'il te plaît ?
Mon parcours martial, oui. Bon, alors, j'ai commencé comme tout le monde, étant enfant à l'âge de 7 ans, par le judo. Et j'ai été confronté de suite à la compétition, ce qui ne m'a pas forcément plu. Donc, j'ai traversé plusieurs disciplines, comme le karaté, le taekwondo. Et dans l'adolescence, je me suis mis au Jeet Kune Do pendant mes années de lycée et j'ai pratiqué pendant un certain nombre d'années quand même, environ 6 ans. Et après, j'ai trouvé, de par le biais de mes intermédiaires de professeurs de Jeet Kune Do que j'ai croisé, une école qui faisait de la retransmission sur Montauban, de manière plus synthétique sur de la self-défense avec des professeurs de d'Akuryu, c'est une méthode japonaise un peu dérivée du Jiu-Jitsu, et qui faisait aussi en parallèle du Jeet Kune Do et qui m'ont orienté après avoir trouvé un flyer dans la rue sur notre école de Wing Chun. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là que j'ai commencé à faire du Wing Chun dans les années 2000. Voilà. Okay. Et de 2000 à maintenant, j'ai fait du Wing Chun.
Ok, ça fait 20 ans tout pile, quoi.
Ah ouais, exactement, 20 ans.
Est-ce que tu peux peut-être nous redonner un peu les grandes étapes de ton parcours dans le Wing Chun? Peut-être à partir de quand tu as commencé à enseigner et ce que tu fais maintenant?
Ouais, j'ai commencé à enseigner, j'ai été propulsé très vite vers l'enseignement puisque j'avais déjà des aptitudes dans les arts martiaux et puis certaines capacités à animer ou à projeter un enseignement dans tout ce qui était discipline sportive de par mon domaine professionnel puisque je suis animateur socio-sportif avant tout. Et j'ai commencé à enseigner en 2006, si mes souvenirs sont bons, 2006-2007.
Voilà. Ok, ouais. Au bout de 7 ans à peu près, quoi.
Ouais. Et à partir de là, j'ai suivi un peu le même parcours que Joanne, puisqu'on s'est suivi de près. Donc c'est pour ça qu'on se connaît bien aussi. Et j'ai fondé mes écoles. Je suis fondateur des Kundao Wing.
Okay.
C'est une toute jeune organisation qui a 2 ans. Et on a quelques lieux, notamment dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud de la France, je pense que ça s'entend de par ma voix.
Et voilà. Légèrement.
Voilà, en gros. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien à tout ce que tu me
demandes. Non, si, ouais, c'était pour qu'on situe un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 années, parce que c'est long, 20 ans.
Oui, c'est long. C'est pour ça que j'essaie d'être synthétique et de faire les principales étapes. C'est vrai.
Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas lâché le Wing Chun pendant ces 20 années?
C'est sûrement le côté pragmatique, efficace, le côté complet de la discipline, le côté péchu dans le sens où c'est que ça apporte certaines valeurs, certaines notions de complémentaires avec la vie du quotidien en fait. Ce que j'ai réussi à retransposer, que j'avais pas réussi à faire avec les autres disciplines.
Eh bien écoute, c'est parfait parce que ça me fait une super transition pour la suite et notre sujet du jour. Du coup, on va passer à l'aspect un petit peu spirituel des arts martiaux, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous avoue que pour préparer cette interview, je suis allé voir l'article très complet qu'il y a sur Wikipédia sur la spiritualité dans les arts martiaux. Il est très 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 long et je pense qu'il apportera plein de choses pour les gens qui veulent se renseigner plus que notre discussion d'aujourd'hui. Du coup, Wikipédia, ils partent sur le principe qu'il y a 3 types de connaissances qui sont enseignées par les arts martiaux, qui sont l'autodéfense, les arts guerriers et une voie pour l'accomplissement spirituel. Je voulais déjà voir avec vous ce que vous pensiez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision?
Joanne,
direct.
Ben ouais.
Oui, non, mais moi je suis d'accord avec cette vision. Oui, c'est vrai qu'il y a 3 grandes façons actuellement, parce que c'est peut-être peut-être pas toujours le cas, mais on peut diviser les arts martiaux, oui, en trois grands groupes. Et certains, comme le Wing Chun ou d'autres, cumulent plusieurs aspects, plusieurs facettes. Mais oui, tu as le côté self-défense, la voie martiale d'apprentissage, qui est souvent liée à un héritage, et puis aussi le côté spirituel, qui est lié à des philosophies qui entourent les arts martiaux.
Ok. C'est ok aussi pour toi, ça, Benoît ?
C'est ok, ouais.
Ok. Alors, Benoît, à ton tour, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on entend par spiritualité dans les arts martiaux ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, c'est un sens large, ça pourrait être un long débat, mais ce qui est dans spiritualité, ce qu'on retrouve, c'est spiritualité avec esprit. J'aime bien l'étymologie des mots, en fait, comprendre d'où sortent les mots. Si on se réfère à l'étymologie du mot spiritualité, on va revenir à tout ce qui est esprit. En fait, esprit, c'est dans quel état d'esprit on se trouve dans une discipline, une pratique du quotidien, de ce que ça évoque dans la personnalité ou dans le sens que ça prend, au sens personnel justement, de ce qu'on s'implique, de la façon où on s'implique dans quelque chose.
Okay.
Pour moi, c'est ça, le sens de la spiritualité dans les arts martiaux. C'est comment moi, je me positionne à l'intérieur d'une discipline, à l'intérieur de quelque chose.
Ok.
Notamment dans ce qu'on fait. Quoi.
Tu le définis.
Alors, je coupe là, parce que bon, de toute façon, ça dure 45 minutes. Alors, pourquoi je vous passe cette vidéo ? Parce que c'est un petit reflet de la conversation que j'ai eue donc, avec... un des exposants. Donc, c'était... Il faudra que je retrouve ça au niveau des stands. C'était une association qui pratiquait une certaine forme de karaté. Faudrait que je retrouve ça. Où est-ce que je l'ai mis ? Je vous retrouverai ça. Et donc, ils discutaient donc, sur ce que je lui ai demandé. S'il y a eu plusieurs formes de karaté, donc quelle est la forme, on va dire, générale ? Et en quoi ça se différencie des autres formes. Et lui, il me disait qu'en fait, on ajoutait des pratiques, des situations, on mélangeait. Et, alors pour ça, je vous renvoie vers toutes les descriptions qu'il y a eu sur la façon dont Bruce Lee pratiquait les arts martiaux, donc ses recherches. En gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'on prend une pratique, on prend un état d'esprit et on ajoute. Je caricature volontairement, hein, parce qu'il faudrait que moi je me réécoute ce que disait Bruce Lee et que j'aille voir ce que chacun disait. Bon, il y a des magazines d'arts martiaux. Je me souviens, j'en avais acheté un pendant un moment. Je vais vous retrouver ça. Bon, vous avez des trucs comme Karate Bushido. Faudrait que je retrouve le... Oui, déjà, c'est les trucs anglais, déjà, donc ça correspond pas. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je vérifie. Donc ça, c'est un magazine en particulier qui s'appelle Yashima. Donc il y a un magazine qui s'appelle par exemple Budo. Je retrouverai tout à l'heure, hein, parce qu'il y en a, il y en a, enfin, je me, de mémoire, j'en avais vu deux ou trois. Bah, arts martiaux, voilà, tout simplement, ça s'appelle arts martiaux. Arts martiaux traditionnels d'Asie, arts martiaux de l'Extrême-Orient, etc., etc. Voilà les types de magazines que vous pouvez acheter. Et donc, bah, ça vous parle de différentes choses. Je ne sais plus, c'est celui-là que j'avais pris ou un autre. Oui, il y avait Dragon aussi. Dragon, art de vivre et arts martiaux d'Asie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, voilà, arts martiaux, dragon, Bushido. Et en gros, ça vous parle pas juste d'un truc. Ça vous parle pas juste de Bushido, juste de Jiu-Jitsu, juste de karaté. Ça, enfin, en tout cas, de mémoire, on examine plusieurs arts martiaux et on décortique. Enfin, vous avez un spécialiste qui parle de tel ou tel truc. Voilà, on referme la parenthèse que pour l'instant, c'est assez confus comme un âge de Kali Yuga. Et on va revenir à quoi? On va revenir au cinéma. Tiens. Puisque au niveau cinématographique, on avait parlé justement. Alors j'avais évoqué avec le monsieur les films de la Shaw Brothers. Et je discutais aussi avec des gens qui sont liés à un magazine qui s'appelle Sencha, le magazine du Japon, qui est basé à Toulouse. Ils me demandaient qu'est-ce qui m'intéressait au niveau de la culture japonaise. Donc je vais parler de musique et je vais parler de cinéma. Et on va vous diffuser Goyokin. La bande-annonce.
に目をつぶった時、俺は人間としての価値を失っていたのだ。一人一人の弱い人間の大きな集まりが侍を支えているということを忘れていたのだ。俺はサバイに戻らねばならん。
サバイ戻られたお命があります。
覚悟の上だ。
すぐはご家老だよ。何かこうでっけえ仕事をやらせておくんないよ。
苦しいサバイ藩の財政を預かる過労職として、俺はどうしてもあの御用金が欲しい。兵の虫を殺さねば、600という家臣を抱えているサバイ藩という大の虫を生かすことはできん。
この私がイカサマ財でも使ったってのかい。
すまね
え。早く逃げろ。
ギャロッカー。アレゴ。
おめえにも面白い見せ物見せてやっからな。
殺せるもんなら殺してみやれ。
とっとっとっとっとい。返答しでじゃおめえさん。この俺をバッサリ。
職人、尾上一刀でござる。尾上一刀は御上諭を受け、腹を切れ
なれば作法にのっとって解釈してやろう。
これは
答えられ。この人物どうにて何に乗ろうとてか
知らん。全く身に覚えなきこの御支配、何やつら。
あんたさえよかったらドーナツしておくれ。
これは腹を切るために着用せ装束にあらず、今日ただいまより冥府魔道に行きんとする我ら親子の門出の晴れ着でござる。さらば上位なぞ。少子
Après le banquet de Yukio Mishima, paraît chez Gallimard. Monsieur Renondeau, vous êtes le traducteur de Mishima. Qui est Mishima ?
Depuis la mort récente du célèbre Tanizaki, qui avait été candidat au prix Nobel pendant de longues années, et qui est mort il y a quelques mois, c'est Monsieur Mishima qui est considéré en somme comme celui qui est à la tête de l'élite des écrivains japonais.
Quels sont les livres de Mishima qui sont connus jusqu'à présent en France ?
Malheureusement, nous n'avons pas grand-chose de lui. Car si en Amérique et ailleurs, on a traduit beaucoup de romans de son œuvre déjà considérable, eh bien en France, il n'est guère connu que par un roman qui a eu une certaine célébrité, Le Pavillon d'Or.
L'héroïne de « Après le banquet » est une femme d'affaires, propriétaire d'un grand restaurant de Tokyo. Elle épouse un ancien diplomate qui tente de revenir sur la scène politique. Le drame entre ces deux êtres reflète l'antinomie des deux Japons, axés l'un sur la tradition, l'autre sur l'avenir.
Nous avons le privilège d'avoir M. Mishima parmi nous. C'est à lui maintenant que je vais poser les questions. M. Mishima, y a-t-il deux littératures japonaises, l'une traditionnelle et l'autre moderne?
Il n'y a pas opposition entre les deux tendances. La littérature japonaise contemporaine est une synthèse entre un apport occidental important et les formes nationales traditionnelles.
À quelle des deux tendances vous rattachez-vous? Aux anciens ou aux modernes?
Je voudrais parler en japonais. Watashi no keiko wa esthétique to psychologie.
Si l'on veut définir la tendance générale de mon œuvre, disons qu'elle est la synthèse de l'esthétique et de la psychologie. De tradition d'ailleurs au Japon, esthétique et psychologie ne sont pas deux éléments différents. L'esthétique ne s'oppose pas non plus au réalisme. Je crois que c'est une originalité au Japon. Il existe chez les écrivains japonais une école, à laquelle je ne participe d'ailleurs pas, qui est celle du roman vécu, qu'on appelle la high novel. Il s'agit d'une sorte de fusion de la littérature romantique occidentale et de la littérature confession des moines japonais du Moyen-Âge. Cette forme littéraire connaît une grande vogue depuis la fin du XIXe siècle.
Y a-t-il un écrivain français qui ait eu une influence particulière sur vous?
Oui, Raymond Radiguet, que j'admire beaucoup. J'ai lu Le Bal du Comte d'Auger très jeune. Ce livre m'a beaucoup frappé.
Quelle est la situation de l'écrivain japonais dans la société contemporaine?
la situation de l'écrivain japonais contemporain, la peur celle d'auteur français à l'époque d'Alexandre Dumas et Lémy Zola. Je voudrais parler en japonais. 日本の小説はあたかもその時代のように連載小説の形で。
Les Japonais sont longtemps restés fidèles à cette forme de roman publié en feuilleton par les journaux. Il y a 10 ans encore, il était courant de voir de grands journaux tirant à 5 millions d'exemplaires publier des romans de qualité en feuilleton.
Quelle est l'influence de la télévision dans la vie de l'écrivain japonais? Est-ce pour lui un nouveau moyen d'expression?
De nos jours, la classe moyenne au Japon est très influencée par la télévision. Elle a tendance à donner sa préférence au spectacle télévisé plutôt qu'à la lecture. Malgré tout, cette formule du feuilleton est tellement enracinée dans les esprits que les écrivains continuent à publier d'abord leurs romans dans les revues littéraires.
Est-ce que, par exemple, la bombe a inspiré des livres ?
Le problème d'Hiroshima, pour nous, écrivains, est extrêmement difficile à aborder. Il demeure au fond de notre cœur comme un sentiment personnel profond comme un abîme. Pendant quelques années après la fin de la guerre, des romanciers ont traité le problème d'Hiroshima, mais d'un point de vue politique. D'autres auteurs ont raconté leur expérience personnelle du drame sous la forme d'un roman autobiographique. 15 ans après la bombe, on a commencé à voir apparaître des œuvres d'imagination abordant le sujet d'un point de vue plus objectif. Je me permets de vous citer l'exemple de mon roman « La belle étoile ». Actuellement, le romancier Isuza publie un livre consacré à la bombe sous la forme du journal d'une jeune fille d'Hiroshima morte dans la catastrophe atomique. C'est un bon roman et écrit dans un esprit extrêmement objectif.
Merci, Monsieur Mishima. Je rappelle que nous venons de parler de « Après le banquet » de Yukio Mishima qui paraît chez Gallimard.
Voilà, donc Archive INA de 1966, rencontre avec Yukio Mishima qui parle un peu français. Moi je dis bravo parce que c'est pas moi qui vais me risquer à parler japonais. Alors, nous passons à tout à fait autre chose. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'aller voir au niveau de la littérature. Je me souviens pas d'un stand qui m'ait marqué. Littérature en dehors des mangas et des bandes dessinées, hein, je précise, littérature japonaise. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait explorer aussi. Donc je vous ai parlé d'un magazine qui s'appelle Sencha, S-E-N-C-H-A, qui est basé à Toulouse. Donc c'est sous-titré le magazine du Japon. Et donc pas mal d'infos. Alors j'ai vu le site tout à l'heure, on y reviendra. Je vais parler d'une association ou d'une société qui s'appelle Shibuya Rock. Donc, j'ai récupéré un flyer qui est basé à Metz. Alors, du côté de Metz, vous avez donc un bar, un restaurant japonais, une salle de karaoké et une salle de concert. Donc, sur le flyer, il y a marqué que c'est une société française spécialisée dans la promotion de la musique japonaise. Elle développe donc plusieurs pôles d'activité, organisation de concerts et de tournées, vente de CD, vinyle et merchandising, promotion d'artistes japonais et label. Alors, au niveau du label, j'ai vu qu'il y a une artiste féminine qui s'appelle... qui s'appelle Isiliel, qui a l'air de vrai dans le rock gothique et le black metal. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Umbral Exorcism. We'll be right back. Alors, Ezeliel, Umbrella Exorcism. Alors, quand je parlais de black metal, c'est surtout, on va dire, dans l'esthétique du clip. Puisque là, j'ai la vidéo sous les yeux. C'est-à-dire, on a le corpse paint, on a, elle saisit une hache, on a le cuir noir. Par contre, au niveau de la musique, c'est ce que certains appelleraient du metal à chanteuse. Hein, c'est-à-dire, des groupes comme... j'allais dire, c'est pas symphonique, c'est... j'ai oublié les noms. Les noms de groupes à chanteuses. Bref, vous avez compris de qui il s'agissait. Et c'est plutôt du heavy metal. Il y a un côté un peu poppy. Il n'y a pas le côté brut du black metal, on va dire, habituel. Enfin, quand je dis habituel, vu par les Scandinaves. Enfin, vous m'aurez compris. On écoutera Sai tout à l'heure, même tout de suite d'ailleurs. Allons voir du côté de Sai, un groupe, je pense, plus connu que Ezeliel. Enfin, en tout cas, de mes services. On va écouter un extrait du nouvel album qui est la révision de l'album Hangman's Hymn. Écoutons le morceau Death with Dishonor.
Yeah.
Alors, c'est mieux si j'ouvre les micros. Donc, je disais qu'on va écouter un autre morceau de Psy. Et alors, les groupes de metal symphonique ou de heavy metal avec chanteuses les plus connues, c'est Nightwish, D-Lane, Epica, Within Temptation. Et je disais donc que la musique de Easy Liel me faisait penser à ça. Enfin, le morceau donc Umbral Exorcism, en tout cas. Il y a au moins, donc sur le site de Shibuya Rock, il y a, alors donc Easy Liel, je disais donc, il y a 6 albums que vous pouvez vous procurer. Donc elle a fait un album qui s'appelle Lilith, un autre, donc là on reste en tout cas au niveau de la pochette dans un trip gothico black metal. Il y a un morceau qui s'appelle Pinky Promise. Alors là, ça fait plus manga pour filles, on va dire. On a un autre album qui s'appelle Cliffot. Alors là, voilà, on retourne dans le black metal. Un autre qui s'appelle... alors je pense que c'est un live. Donc le Kumio Kishi Tour. Donc là, on reste dans le... on dirait le... entre gothique, BDSM et black metal. Un autre album qui s'appelle Moonbow. C'est bien ça, Moonbow Genesis. Et enfin, un qui s'appelle Seizon Senryaku. Voilà, donc 6 albums de Easy Liel disponibles sur le site Shibuya Rock. Allons voir donc du côté de Sai le morceau Shigon Tashikawa, s'il vous plaît.
Call.
C'était Sai Shigon Tachikawa sur l'album Ghastly Funeral Theater, s'il vous plaît. On continue avec quoi ? Avec... Alors ça, c'est déjà fait. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre ? On va vous remettre du Meiko Kage en attendant.
Makana baranya toge ga aru sashita kanai ga sasaru nya moeru moeru Ibushi Tsuki ni ichido wa chi o nagasha Wasure you to te wasurare you ka Tsuki nu Tsuki nu Tsuki nu onna no urami Shinde hanami ga saku janashi Urami hitosuji ikite yuku Onna, onna, onna ichi no urami ibushi.
Alors maintenant, on va évoquer le musée consacré à Osamu Tezuka, Manga Museum. C'est un monsieur qui a fait Princesse Saphir. Donc ça, c'est là, je m'adresse aux vétérans, hein, aux old-timers. Il a fait Princesse Saphir et il a fait Le Roi Léo. Alors, on va vous passer des extraits du générique de ces dessins animés. Commençons par Le Roi Léo.
Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques.
C'est pas tout à fait ce générique-là dont je me souviens. Mais...
Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux.
Donc, Princesse Saphir. Si ça veut bien s'y mettre. Princesse Saphir.
3, 2, 1,
Air Fryer Philips, délicieusement surprenant. On vous met au...
Voilà ce qui arrive quand on dépend de YouTube. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein. Princesse Saphir, Princesse Saphir, Princesse Saphir, Princesse Saphir, Princesse Saphir, Princesse Saphir, Princesse Saphir.
On a laissé tout seul et qui a dû vivre un deuil. Un lionceau aussi intrépide que bienveillant. Aussi brave.
Que c'est une nouvelle version parce que c'est moi je me souviens pas de cette version là. C'est la version Dorothée, j'ai envie de dire, sachant que le manga date des années 50 et 60. Hein. Et je pense que le Roi Léo, ça doit être pareil. Ça doit dater des années 50 et 60. Donc, ALPHA annonce un vinyle de Super John, donc ça s'appellera Digitalization, donc Super John et ALPHA. 8 titres, 35 euros sur le Bandcamp d'ALPHA. Et il y a aussi un album digital qui est la compilation ALPHA pour Nil, donc 16 titres, dont quelques inédits. Au prochain sommaire de Ugly Thing, je crois qu'on a déjà dû en parler, mais on va en remettre une couche. Donc, il y aura Lou Reed, les Them, les Dead Boys. The Things, donc troisième partie de l'interview. Plastic Land, donc troisième partie du dossier. David Bowie, Loving Spoonful, entre autres. Apparemment, les Tottenhausen jouent le 9 septembre 2025 à Élysée Montmartre et c'est déjà complet. Et il y a un nouvel album de Public Enemy qui s'appelle Black Sky Over the Project's Apartment 2025. Alors, nouvel pour les métalleux, un nouvel épisode de Voyage au centre de la scène consacré à Paradise Lost. C'est la semaine prochaine, le 4 juillet, si vous n'êtes pas au Rip Fest, qu'on voit, parce que c'est à Notre-Dame d'Oé, hein, avec notamment Napalm Death. Donc, si vous n'êtes pas là-bas, il y a une affiche Merciless Creeping Fear Carn, donc 100% death metal. Ça sera au club, donc à Paris. Pour 12 euros en location, 14 euros sur place. Et enfin, Johnny Eccles va monter une tournée anglaise de Love en avril et mai 2026 pour célébrer les albums d'Acapo et Love, donc les premiers albums avant donc Forever Changes. Voilà pour les news. On se remet du SOB. Ou bien on se met du Psy. Alors on va vous mettre un bon vieux Psy. À condition d'avoir vous inquiétez pas, je suis toujours là. We'll be right back. Alors, ce qui se passe, c'est YouTube en folie, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Sigh, ready for the final war.
Destruction now has come. Russia now has grown drunk. The land is standing wrong. And it's fading.